liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, la semaine 46 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Le sommaire de cette semaine.
Alors,
De la semaine passée.
De la semaine passée, oui, effectivement, mais de la semaine qu'on est en train de faire. Donc, cet article, hein, on reste à peu près dans les clous de ce nombre magique. Donc, on va vous parler de brevets unitaires, la Linux Foundation, l'Open Data, l'Open Innovation, nouveau concept, mais l'article est vraiment intéressant. Le logiciel libre et le propriétaire, mais dans le secteur public, l'économie et le libre. Et pour finir, on va reparler encore une fois de brevets logiciels, parce que c'est un bon sujet, mais ce coup-ci, plus du point de vue des entreprises.
PC Impact, brevet unitaire, réunion accélérée, inquiétude accentuée, un article de Marc Ress.
Et oui, c'est en ce moment même que ça se joue. Le brevet unitaire, il y a des grosses évolutions, on va vous en parler un petit peu, mais déjà là, c'est quoi là qui se joue? Il y a un truc ce soir,
alors,
cette nuit?
Il y a la commission jury qui se réunit et ça a été accéléré. Il faut comprendre qu'au niveau du Parlement européen, il y a des commissions spécialisées avec des députés qui connaissent les sujets, en tout cas les matières. Donc, commission jury, c'est la partie juridique évidemment.
Comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique. Et c'est très important parce que les conclusions qu'elles arrivent, elles sont ensuite votées par le Parlement. Mais en général, le débat, il se fait très en amont au niveau de ces commissions. Et le Parlement a plutôt tendance à adopter la position de la commission ou en tout cas des partis qui ont été dans la commission. Donc tous les débats se font essentiellement dans ces commissions-là. Donc c'est très important d'intervenir maintenant.
Surtout quand, j'imagine bien, comme là, ça semble toucher des points assez spécifiques, assez précis. Je comprends bien, il y a des articles 6 à 8, qu'est-ce qui leur est arrivé?
Ces articles-là, sans rentrer dans le détail de leur contenu, il est question de les supprimer. Et ça poserait de gros soucis parce qu'en fait, ça liquiderait une bonne partie du pouvoir de contrôle des institutions européennes. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le contrôle politique.
Sur l'Office européen des brevets, qui est pourtant européen, soi-disant.
Qui n'est pas une institution européenne, contrairement à ce que le nom veulent croire, on l'a dit déjà plusieurs fois, hein, mais c'est toujours bon de le répéter, c'est un truc, une sorte d'entité autonome qui était héritée d'accords internationaux, et voilà, c'est des gens qui sont en roue libre, c'est des gens qui font du business par le brevet, et qui seraient enchantés de faire du brevet logiciel. Donc,
mais, je rappelle, eux, ils seraient pas enchantés d'en faire, ils en font déjà, il y a déjà des milliers de brevets illégitimes, illégaux, mais qui ont été enregistrés au niveau de l'Office européen des brevets.
Voilà, donc tout ça pose des gros problèmes de légalité, outre le fait que, bah, en gros, il y a cette volonté, en tout cas cette perspective d'abandonner du pouvoir et de laisser des institutions autonomes, non élues et pas vraiment contrôlées en roue libre. Tout ce projet pourrait devenir illégal, donc avec une possibilité que le projet en entier soit retoqué devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais bon, voilà, enfin, ça pose quand même de gros souci. Le principe de la démocratie représentative, normalement, c'est d'avoir des pouvoirs politiques élus, etc., qui vont contrôler l'activité des institutions.
Alors, je rajouterais que Gibus, notre grand spécialiste à l'April, eh bien, il est au taquet là-dessus. Il a fait des propositions d'évolution et des amendements qui sont assez intéressants, qui laissent cette idée d'un brevet unitaire, mais qui permet de s'assurer de l'interdiction des brevets logiciels. On applaudit. Et puis, bah, là, bah, ils vont peut-être y passer la nuit, parce que ça va discuter avec Frédéric Couchet. Ils sont au taquet, ils écoutent, ils regardent, ils vont voir comment ça évolue, toutes ces discussions.
On enregistre lundi soir, hein, pour préciser, donc c'est en train de se passer maintenant. Donc quand vous écouterez ça, sans doute qu'il se sera déroulé des choses, mais pour le moment, on ne peut pas vous en parler. Silicon.fr, Jim Zemlin, Linux Foundation, le logiciel propriétaire est condamné. Et c'est un article de Nerea Bilbao.
Un article, une interview. Donc justement, il interviewe le directeur exécutif de la Linux Foundation, et comme c'est bizarre, bah, lui, il prédit la mort du logiciel privateur. Comment ça se fait?
Enfin, déjà, il commence par dresser un panorama avec des éléments qu'on a déjà cités, qu'on a déjà vus dans d'autres articles, mais qui sont toujours bons de rappeler, en disant que, par exemple, dans les institutions publiques, il y a au moins un logiciel libre dans 93% des cas. On peut également rappeler que 80% ou 85% des serveurs qui servent à faire fonctionner Internet fonctionnent sous Linux, et après ça, il y en a, ou au moins sous du logiciel libre, et que pour une bonne part, il y a un noyau Linux, que les téléphones Android, c'est pas du GNU Linux, mais il y a quand même un noyau Linux dedans, etc. Donc
c'est
Linux,
du libre.
Aujourd'hui, c'est du libre, enfin, c'est partiellement du libre, mais en tout cas, il y a le noyau Linux qui aujourd'hui est vraiment répandu de partout. Et je lisais aujourd'hui que, alors c'est de la rumeur, mais Windows 8 qui a été lancé la semaine dernière se vendrait certes à des millions d'exemplaires, mais à des niveaux un peu inférieurs à ce que Microsoft avait anticipé.
Oui, et surtout, c'est qu'il y a beaucoup de retours très négatifs sur le nouveau système d'exploitation, et ça, c'est toujours amusant à voir parce que on n'est pas vraiment de leur côté.
C'est un pari quand même très difficile de changer radicalement une interface. Forcément, ça va provoquer des critiques. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je m'abstiendrai de critiquer trop. Même bon, si ça ferait plaisir, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne ce truc de Jim Zemlin, l'article, il est quand même très orienté open source.
Ah, il faut rappeler, Linux Foundation, c'est des entreprises pour une grosse partie qui contribuent à l'association. Et c'est grâce à leur contribution qu'il y a plein de développeurs qui sont payés, qui sont salariés. Donc, il y a vraiment pas mal d'argent. Des grosses boîtes comme Hewlett-Packard, IBM et beaucoup d'autres qui sont
Google,
là-dedans.
China Telecom.
Oui, c'est assez considérable. Donc, ce gars-là, quand il parle, il a une certaine voix, il y a une certaine résonance, il faut l'avouer.
Voilà, donc en gros, dans la pure lignée du principe open source, il évoque l'intérêt pour faire du meilleur code, plus rapide, plus efficace, qui évolue mieux, etc. Il dit que le noyau, il est changé, il change toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a une contribution au noyau Linux, ce qui est impressionnant. Mais voilà, toute cette question de liberté de l'utilisateur.
Et oui, l'éthique est mise de côté.
Il n'en parle pas du tout, ce qui est un petit peu
heureusement,
chagrinant.
On est là pour ne pas l'oublier.
L'usine nouvelle, droits et devoirs de l'open data, un article de Marc Schuller et Guillaume Rimbaud.
Alors, c'est deux bons gars qui sont avocats à la cour, qui plus est.
Probablement spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle, comme on dit. Et ben là, ils font un article juridique, accessible, qui est manifestement un article juridique de vulgarisation, et qui est à destination, je pense, de leurs clients potentiels, donc des entreprises qui pourraient avoir des soucis, et en tout cas se poser des questions sur l'open data. Et donc, ils dressent un panorama juridique précis, accessible, et en sensibilisant les gens sur des dangers, notamment sur le fait qu'il y a plusieurs licences et qu'elles n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements et qu'il faut faire gaffe à ne pas s'en mêler les pinceaux.
Et oui, ils parlent même de Creative Commons, qui est pas mal du tout, et ils expliquent, attention, il y a des clauses et il faut bien suivre ces clauses. C'est normal, c'est légal. Si vous ne le faites pas, vous êtes des contrefacteurs. Donc c'est un peu risqué. Je rajouterai, il y a un chiffre que moi m'a assez intéressé, c'est la mission Etalab, qui est un truc de l'État, si je comprends bien, interministériel, et ils ont recensé, semblerait, 350 000 jeux de données qui viennent de l'administration et autres États. Et donc ces 350 000 jeux de données, ce sont des ensembles qui font partie et qui contribuent à tout ce qu'on appelle l'open data. Ça me paraît considérable, je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais en tout cas c'est vrai, il y a peut-être des entreprises qui vont pouvoir se les accaparer, des individus, et en faire des choses utiles et ingénieuses, et on attend que ça.
Le Nouvel Économiste, le concept d'Open Innovation, un article de Lorelai Carive.
Alors ça, c'est The Article de la semaine, j'adore, c'est carrément un nouveau truc, un nouveau domaine, on va parler de pharmaceutique.
L'article est assez surprenant parce qu'on a tous plus ou moins entendu parler du domaine pharmaceutique et de leurs mauvaises habitudes par rapport à la protection de leurs brevets, de leurs molécules et ce genre de choses.
Oui, où ils refont les mêmes médicaments mais ils leur donnent un nouveau nom et hop, roulez jeunesse.
Pour repartir sur quelques années, sur leur combat contre les génériques ou l'interdiction d'utiliser certains médicaments qui peuvent soigner des maladies qu'on n'a plus chez nous mais qui peuvent exister en Afrique par exemple ou des choses comme ça. Et là, manifestement, grosse évolution depuis quelques années où ces labos avaient de plus en plus de mal à innover et à sortir des nouvelles molécules.
Oui, ce qui nous faisait bien, bien rigoler de manière un peu cynique sur le côté, mais ils ont peut-être une solution finalement.
Voilà, ils disent qu'ils ont largement développé des partenariats avec l'extérieur, soit des PME innovantes dans le domaine des biotechnologies, soit des universités où ils trouvent, semble-t-il, plus de talents, des gens plus pointus, plus compétents. Alors on imagine aussi dans des contextes plus souples où les gens ont plus de liberté et sont moins sous la coupe d'une grosse organisation, d'un groupe bien lourd, bien monolithique, et que assez naturellement, pour échanger avec ces gens-là, les licences libres, les principes du libre, ça s'applique.
Et oui, moi c'est ça que j'apprécie vraiment, le côté centralisé, les grosses structures, elles arrivent à mieux bouger, elles sont plus agiles, et donc elles s'inspirent de l'open source, du libre. Moi j'applaudis parce que justement je pensais que c'était des dinosaures, mais c'est peut-être des dinosaures qui ne vont pas mourir et se transformer. Ils vont peut-être continuer à faire ce qu'ils font bien, c'est-à-dire mener les médicaments dans leur pipeline, avec toutes ces problématiques légales, de suivi de règlements qui sont très complexes, qui sont très longues. Par contre, les talents, eux, c'est plus de l'agilité, c'est plus des petites structures, des gens qui vont et qui viennent. Et là, le modèle du libre, l'open source, a l'air de briller. Donc, bravo. Moi, c'est assez
nouveau. Il y a quand même deux bémols qui sont donnés dans l'article. D'une part, en disant que la confrontation des cultures est parfois violente et qu'ils ont besoin de gens qui soient entre les deux.
Oui, ça doit faire des sacrés clashs même.
Voilà, et après ça, les labos qui disent, mais nous, on a quand même besoin de protéger nos trucs parce que nos médicaments, entre le moment où on lance le machin et où ça arrive sur le marché, il se passe 8 à 9 ans, et il est hors de question que la molécule soit libre, etc. Donc ils sont quand même dans une idée de poser des brevets et verrouiller le machin pour amortir leur investissement, comme ils disent, mais comme dire, garantir leurs bénéfices également.
En attendant, moi je trouve que c'est des bons arguments pour rediscuter de toute cette propriété intellectuelle, parce que on utilise souvent le pharmaceutique comme un exemple de brevet qui soi-disant fonctionne ou en tout cas est utile. Je sais pas, moi je pense qu'il y a de l'évolution. Tout ça, c'est inspiré du libre, c'est intéressant et peut-être qu'on peut être plus innovateur autrement.
Village de la justice, le logiciel libre et le logiciel propriétaire sur un même pied d'égalité dans le secteur public. Point d'interrogation. Un article de Chloé Rousselet, qui est une juriste.
Et on reparle de la circulaire héros, la magnifique circulaire héros.
Voilà, l'article est vachement bien parce qu'au final, il dit exactement ce qu'on a dit à l'April quand la circulaire est sortie.
Oui, une répétition, donc en gros, la circulaire c'est bien, mais c'est pas suffisant.
Et oui, elle constate elle également qu'il n'y a rien qui impose quoi que ce soit. Une circulaire, déjà, c'est juste une recommandation, en tout cas une information. Et puis dans cette circulaire, il n'y a aucune obligation à utiliser du libre particulièrement. Donc cette personne, manifestement, est vraiment pro-libre dans son discours. Elle évoque en début d'article les avantages financiers que ça peut représenter, notamment. Et en gros, voilà, le propos est celui de l'April, hein, avec des arguments juridiques et des trucs un petit peu détaillés.
Bravo, joli article, on apprécie.
Enviscope.com, informatique, le libre et source d'économie, un article de Michel Desprost.
Petit article, mais ça fait pas de mal, on va parler un petit peu plus de local.
Donc ça, c'est du côté de la région lyonnaise, donc c'est une association, probablement association écologiste, qui s'appelle La Mouette, et qui en gros a spammé les 58 maires du Grand Lyon. Je dis spammé, c'est pas gentil, c'est péjoratif. Non, donc le Grand Lyon, c'est Lyon et toutes les communes alentours. Donc 58 maires, en leur disant que ce serait peut-être bien de passer à LibreOffice, OpenOffice, plutôt que d'utiliser Microsoft Office.
Oui, qui coûte et cher. Hein.
Voilà, donc leur estimation, c'est que le Grand Lyon, donc toutes les communes du Grand Lyon, pourraient économiser 900 000 euros en faisant ça. Et ils ont d'autres évaluations, disant que si on mettait dans l'agglomération lyonnaise, logiciel libre partout, il pourrait économiser 2 millions d'euros.
Donc c'est pas rien, on encourage, bravo.
ZDNet.fr, Laure Marino, professeur agrégé de droit, Apple ne pourra pas exploiter son brevet, entre guillemets, sur les coins arrondis pour faire condamner Samsung. Un article d'Antoine Duvauchel.
Et oui, parce qu'on en parlait la semaine dernière, aux US, ils viennent d'avoir un brevet de design, de conception sur les coins arrondis. Bon, c'est pas forcément un truc qui va aller très loin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un discours assez pointu.
Oui, alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'elle dit que cette question de brevet de design, c'est vraiment un vocabulaire américain et que ça n'a rien à voir avec du brevet et que c'est couvert, en gros, c'est l'équivalent chez nous d'une autre notion juridique qui est le principe de design modèle et donc qui existe en droit français et qui est vraiment l'équivalent. Donc elle explique comment ça fonctionne, hein, en disant voilà que c'est la différence et qu'après ça, c'est pas parce que le truc est déposé que automatiquement ça marche. Alors elle décrit pas mal le mécanisme consistant à déposer des trucs, des dessins et modèles dans tous les sens pour ensuite aller attaquer tout ce qui bouge, surtout quand on a les moyens, quand ça s'appelle Apple, pour mettre des bâtons dans les roues.
Oui, elle appelle ça un dépôt de barrage.
Tout à fait, donc elle a l'air de trouver ça plutôt pas mal, hein, ce qui, moi, me chagrine un petit peu. Enfin,
on voit d'où elle vient, hein. Clairement, elle prêche une chapelle qui n'est pas la nôtre.
Mais bon, nous, on peut imaginer qu'une entreprise serait légitime à gagner de l'argent à partir du moment où elle rendrait des services corrects et des bons produits, etc., et non pas qu'elle mette des bâtons dans les roues de ses concurrents.
Et qu'elle vive d'une rente, hein, parce que c'est rien d'autre que des rentes, tous ces systèmes-là.
Tout à fait. Là aussi où j'ai un peu de mal à la suivre, c'est qu'elle explique que les entreprises investiraient énormément, auraient beaucoup de travail pour déposer ces dessins et modèles. Donc c'est vraiment une question de design, donc bon certes c'est du travail, mais entre développer un système d'exploitation, concevoir tout le hardware, etc. et faire un dessin design, je pense que c'est quand même pas la même masse de travail. Bien Manu, merci.
À la semaine prochaine.
Oui, salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.